Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
EDF était un champion français, c'est devenu un problème. Comment est-on passé d'une situation où cette entreprise était notre fierté en quelque sorte à une situation où aujourd'hui EDF passerait presque pour un boulet ? Bonjour Élie Cohen.
Bonjour.
Vous êtes économiste. Tout d'abord, EDF est le numéro un mondial de l'énergie. Pourquoi cette entreprise est-elle devenue numéro un ? Les autres sont-ils devenus plus petits ?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la France avait choisi historiquement un modèle d'opérateur intégré, présent sur toute la chaîne et en situation de monopole. Et puis après, on est entré dans une période de libéralisation. Et en fait, les avantages compétitifs d'EDF étaient tels que la concurrence n'a pas pu véritablement se développer et on n'a pas vu d'opérateur vraiment concurrent se développer. On avait pensé à un moment que Suez, devenu Engie, pourrait être un concurrent significatif. On avait pensé que Total allait rentrer assez tôt dans l'électricité, même dans le nucléaire. Et en fait, les avantages du parc nucléaire installé en termes de coûts était telle qu'EDF dominait de la tête et des épaules l'ensemble de ses concurrents potentiels. Et donc, malgré la libéralisation, EDF est resté l'acteur prédominant. Au même moment, ailleurs, notamment en Allemagne, avec la sortie du nucléaire et l'adoption d'une politique marquée de transition énergétique, les grands opérateurs historiques, qui étaient d'ailleurs au départ beaucoup plus nombreux, à cause de l'organisation en Länder allemande, historiquement, les opérateurs allemands, en fait, ont perdu du poids, ont maigri, et donc du coup, le maintien d'EDF dans sa position de domination relative et l'affaiblissement des autres acteurs européens et mondiaux ont fait que mécaniquement, EDF était et est resté le leader mondial.
Élie Cohen, dire aujourd'hui qu'EDF est au bord de la faillite, est-ce un abus de langage ?
Oui, c'est un abus de langage. EDF n'est pas au bord de la faillite. Par contre, EDF, qui avait bénéficié de facteurs longtemps très favorables, entre dans une période de turbulence. Pourquoi ? Il y a deux ou trois chiffres qui permettent de comprendre. En 2008, le prix de gros moyen du kilowattheure d'électricité était de 80 euros. Il est tombé à 24. Et aujourd'hui, il tourne autour de 30. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'activités qui peuvent supporter une division par 4 de leur prix de référence ? Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, EDF subit les effets de ce que j'appelle l'hiver nucléaire. EDF a été le principal investisseur mondial dans le nucléaire, qui avait acquis une maîtrise formidable avec ses 58 tranches. EDF avait maîtrisé complètement la filière nucléaire. Et puis, pendant de nombreuses années, pendant quasiment 2 décennies, elle n'a plus rien construit. Et donc, quand elle s'est remise à construire, avec notamment Flamanville, elle avait perdu un peu la compétence de ses grands chantiers, avec de plus un EPR qui est un procédé technologique particulièrement compliqué, particulièrement redondant en dispositifs de sécurité. Et donc, la centrale de Flamanville, qui aurait dû coûter 3,5 milliards, en coûte déjà 10,5 milliards, donc 3 fois plus. Donc, vous voyez des prix.
Vous dites déjà, parce que pour l'instant,
c'est
évidemment,
pas fini.
On ne sait
et
pas,
on a
pas quelle
réussi,
sera l'addition
et
finale.
Et on n'a pas réussi à terminer Flamanville. Et en plus, on y reviendra sans doute tout à l'heure, des problèmes sur la centrale de Flamanville, notamment sur la cuve. Donc, effondrement des prix, perte de maîtrise du nucléaire, et puis en plus, EDF est dans une période où elle doit investir massivement. Un, pour entretenir son parc ancien, c'est ce qu'on appelle le grand carénage, qui va lui coûter 55 milliards d'euros. C'est pas une paille. 55 milliards d'euros dans les 10 prochaines années. En même temps, elle doit investir dans son réseau de distribution. Elle doit équiper les Français de compteurs intelligents, c'est les fameux Linky. Elle doit investir dans Areva pour reprendre Areva. Enfin bref, la multiplique. Et puis, en plus, elle doit gérer sa transition écologique en investissant massivement dans les énergies renouvelables. Donc, tout ceci arrivant en même temps, des prix qui s'effondrent, des investissements qui doivent monter, une perte de maîtrise technologique, avec un affaiblissement de son fournisseur historique qui est Areva, c'est trop, quoi.
On comprend bien qu'il y a un contexte extrêmement troublé autour d'EDF aujourd'hui, avec un dossier en plus, celui de la centrale d'Hinkley Point,
oui,
avec un mécanisme financier un peu complexe, puisque c'est EDF qui va investir et construire cette centrale en Angleterre, puis elle se remboursera avec l'électricité ainsi produite. C'est une technologie nucléaire, là aussi, compliquée à maîtriser sur le plan budgétaire, je ne parle même pas du reste. Et donc, on comprend qu'il y a un débat sur l'opportunité de construire ou non cette centrale. L'ancien directeur financier d'EDF a démissionné il y a peu de temps pour protester contre cette construction. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de ce dossier d'Hinkley Point ?
Alors, au départ, si vous voulez, c'était un dossier rêvé et c'est en train de devenir un cauchemar. C'était un dossier rêvé au départ parce que EDF, dans une période de prospérité, avait acquis British Energy, qui était la grande société anglaise de production et de distribution d'électricité. Et dans le patrimoine acheté, il y avait les anciennes centrales d'Hinkley Point et de Sizewell et la possibilité de construire sur place de nouvelles centrales. Or, on était à un moment qu'on appelait, au début des années 2000, on appelait ça le printemps nucléaire, c'est-à-dire que partout, on croyait que c'était la renaissance du nucléaire. Et donc, pour EDF, avoir pris pied en Angleterre, c'était à la fois la certitude de construire les nouvelles centrales nucléaires anglaises, ou en tout cas une partie d'entre elles, et en même temps de faire une espèce d'alliance stratégique en Europe avec l'Angleterre pour promouvoir le nucléaire, au moment où on savait que dans d'autres pays, l'enthousiasme était moindre. Et puis, deuxième élément, à l'époque, le prix de l'énergie était particulièrement élevé et le nucléaire, la solution EPR telle qu'on la concevait à l'époque, était à peu près deux fois moins cher que ce qui se pratiquait sur le marché. Donc c'était une formidable opportunité et en plus, les Anglais étaient prêts à signer à EDF un contrat d'achat sur 35 ans, lui garantissant des prix et des marges très confortables. Et puis tout a tourné de travers. Premier élément, perte de maîtrise technologique dont je vous parlais tout à l'heure. L'EPR, que nous étions censés installer en Angleterre et pour lequel nous étions censés bénéficier d'une double expérience, à la fois l'expérience française de Flamanville et l'expérience chinoise de Taishan, il s'est avéré qu'on n'était pas capable de maîtriser. Et aujourd'hui, alors qu'on doit prendre l'engagement de démarrer la construction d'Hinkley Point, on n'est même pas certain d'achever correctement notre propre centrale à Flamanville. Donc premièrement, perte de compétences technologiques et risques technologiques. Deuxièmement, nous avions théoriquement un partenaire pour construire Hinkley Point, c'était Areva. Or, Areva, qui est le manufacturier, s'est effondré lui aussi. C'est-à-dire qu'il lui aussi a perdu la maîtrise technologique, la compétence des grands chantiers, et non seulement il a raté sa première opération finlandaise, mais en plus, il n'a pas suffisamment capitalisé sur cette expérience pour nous être d'une grande aide. En fait, ce qu'on a découvert, c'est que même la fameuse cuve de Flamanville qu'ils ont livrée présente probablement des défauts qui risquent de rendre l'autorisation par l'ASN problématique. Donc, affaiblissement d'EDF, affaiblissement d'Areva. Or, Areva n'était pas simplement le fournisseur technologique, il était également le partenaire financier. Or, Areva s'est effondré financièrement. Et puis, troisièmement, quand nous étions dans une stratégie conquérante, les investisseurs se bousculaient pour être nos partenaires. Les Chinois, les investisseurs financiers. Depuis que nous ne sommes même pas capables de terminer Flamanville, les investisseurs s'éloignent. Et entre-temps, la situation financière d'EDF s'est dégradée. Donc, vous voyez, ce qui devait être une promenade de santé devient un cauchemar.
Mais alors, comment un homme politique aussi avisé qu'Emmanuel Macron peut considérer qu'il est extrêmement important de commencer la construction de cette centrale nucléaire?
Pour une raison très simple, c'est que dans le cas de l'Angleterre aujourd'hui, c'est pile on perd, face on perd. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire, si on décide aujourd'hui d'abandonner le contrat anglais, d'abord on abandonne un contrat formidable, parce que c'est 110 euros du mégawatt garanti pendant 35 ans. C'est un contrat fabuleux qui, normalement, aurait assuré une rentabilité formidable. Vous l'abandonnez, vous perdez le marché anglais et vous perdez la première grande référence occidentale en matière de nouveau nucléaire avec l'EPR, c'est-à-dire probablement vous renoncez à la filière de l'EPR. Parce que qui va vouloir après s'engager dans cette voie si le champion mondial de l'EPR dit je peux pas, je jette l'éponge. Donc si vous voulez, si on décide d'abandonner, c'est une catastrophe. Mais si on décide de faire, comme on n'est pas capable de maîtriser le processus, les risques technologiques, financiers, économiques sont colossaux. Donc on risque non seulement de perdre l'investissement qui aujourd'hui représente 16 milliards sur 24, mais pire encore, parce qu'on a garanti la partie chinoise. Et si on n'est pas capable de réaliser correctement cette centrale, les garanties financières que nous donnent les Anglais également, on les perd. Donc si on s'engage, qu'on met tout cet argent et qu'on ne réussit pas, c'est encore une catastrophe. Donc pile, vous perdez, face, vous perdez.
Cela dit, un investissement de 16 milliards d'euros, pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs. Aujourd'hui, EDF est valorisé 22 milliards d'euros en bourse. Et il y a quand même quelque chose d'inouï dans
cette histoire. Et EDF a une dette de 37 milliards.
Donc, on voit que c'est quand même une santé financière précaire. Vous dites que EDF n'est pas menacée par la faillite, elle n'est pas menacée par la faillite parce que nous sommes là. Mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement étonnant dans cette histoire de privatisation d'EDF. On voit qu'auparavant, EDF était encore une fois un fleuron français. On l'a privatisé, cette entreprise a perdu la moitié de sa valeur. Et on se demande si finalement l'idée de mettre dans le secteur concurrentiel ce qu'on appelle des utilities en anglais, autrement dit des fournisseurs d'énergie, était réellement une bonne idée. Il est véritablement permis d'en douter aujourd'hui, vous ne trouvez pas, Élie Cohen ?
Non, il y a deux choses différentes. Il y a un, le problème de libéralisation du marché de l'électricité. Ça, c'est une décision que nous avons prise collectivement au niveau européen et sur laquelle j'ai toujours été très critique. Parce qu'en gros, on a voulu instaurer un modèle de marché dans l'électricité alors que le propre de l'activité électrique, à mon sens, ne s'y prête pas bien.
C'est comme disent Pourquoi
les pour les économistes, c'est typiquement ce qu'on appelle un monopole naturel. C'est-à-dire, c'est le monopole qui est vertueux et la concurrence qui peut être nuisible. Pour les raisons que je viens de vous indiquer. Quand vous investissez dans une centrale nucléaire, vous avez un horizon temporaire de un siècle. Comment voulez-vous adapter un modèle dans lequel l'offre se détermine sur un siècle et la demande est d'une extrême volatilité? On le voit actuellement. C'est si réaliste. L'électricité se vend actuellement à 30 euros le mégawatt-heure sur le marché de gros, et on est en train de parler d'un investissement garanti pour le Royaume-Uni à un prix de 110 euros. Mmh. D'ailleurs, ça va nous poser des problèmes avec l'autorité concurrentielle européenne qui va dire, mais c'est des aides d'État. Qu'est-ce qui justifie des aides d'État? C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie le privilège donné au nucléaire au moment même où on est en train de dire qu'il faut pousser les feux de la transition énergétique, de l'investissement dans les renouvelables, etc. Donc, voyez, il y a un hiatus considérable entre l'organisation de marché et les problématiques d'investissement de long terme.
Donc ça, c'est le premier point dites que le monopole était naturel et que finalement, le dogme de la concurrence dans ce contexte-là, en tout cas, ne s'appliquait pas. Et le second.
Moi, j'étais pas partisan de cette solution, mais au niveau européen, on pensait que c'était la solution pour démanteler les anciens monopoles. Mais alors, ensuite, vous dites privatisation. Privatisation, c'est quand vous transférez la propriété publique au privé. Ça n'a absolument pas été le cas dans le cas d'EDF. La part de l'État dans EDF, c'est 85%. Donc, il y a eu une privatisation, si vous voulez, mais très marginale. Je dirais plutôt une ouverture de capital limitée aux salariés et aux petits actionnaires qui se sont littéralement ruinés.
C'est ça, les petits actionnaires ont quand même été extrêmement floués par cette opération. Et à cette époque, souvenez-vous, lorsqu'on a lancé l'opération de privatisation d'une partie d'EDF, on expliquait aux gens, aux petits actionnaires, qu'ils allaient donc faire une extrêmement bonne affaire. On parlait donc d'investissement populaire dans EDF. C'est terrible de constater ce qui est advenu de cet investissement.
C'est encore pire que tout ce que vous dites, parce que le prix actuel d'EDF, c'est comme vous l'avez dit, deux fois moins que le cours d'introduction. Mais entre-temps, il y a eu une opération. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était les 5 milliards du plan Campus. L'État avait vendu une partie du capital d'EDF pour doter les universités françaises. Or, à l'époque, la mise sur le marché s'était faite à plus de 50 euros. Donc, les Français qui sont rentrés à 50 euros ont vu leur mise divisée par 4 ou 5. Non, ce que ça enseigne, c'est que l'État ne peut pas prétendre maîtriser toutes les composantes de la décision stratégique, tarifaire, réglementaire d'EDF et en même temps privatiser partiellement. Parce que le petit actionnaire est nécessairement écrasé par les décisions de l'État.
Donc économiquement, vous me laisserez dire que c'est une forme de catastrophe. Aujourd'hui, on voit qu'on a des problèmes très lourds sur le nucléaire. On va faire les comptes tout à l'heure à 8h15. Et on va voir que le nucléaire, quoi qu'il arrive, de toute façon, va nous coûter extrêmement cher, alors même qu'on avait poussé cette énergie en disant qu'elle pouvait être extrêmement économique. On voit bien que ça n'est pas ce qui est en train de se profiler. On continuera à en parler avec vous, Élie Cohen, et avec Anne Bringot qui nous rejoindra. En attendant, il est 7h55 sur France Culture.